nzamba
nzambira samirana
Nous sommes mardi 29 juin 2021. Vous êtes bien sur la radio Inzamba, Agathe Kakawe. Bienvenue, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices de la radio Inzamba. C'est le moment du journal en français, dont voici d'abord la charpente. Une personne a été tuée ce matin par un policier à Guission en zone des Kanyosha. Nous sommes à mairie de Bujumbura. Le conflit foncier serait derrière cet assassinat. 600 personnes tuées pendant la législature d'une année d'Evariste Ndayishimiye. C'est le bilan donné par la campagne SES Torture, cette organisation qui rapporte également plus de 300 cas d'arrestation arbitraire. Et puis le mouvement pour la solidarité et la démocratie, le MST, constate que la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus. Il demande à l'Union européenne de maintenir les sanctions contre le Burundi. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Alexandre Nyungeko. Bienvenue dans ce journal.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Une femme a été tuée par balle par un policier. Cela s'est passé le matin de ce mardi au quartier Guissio. C'est dans la zone de Kanyosha, mairie de Bujumbura. Le mobile de ce crime est un conflit foncier et la population demande que les policiers ne rentrent plus chez eux avec des armes. Des détails avec Nadine Mohorake.
Selon des témoins sur place, le policier a commencé à construire sur la frontière séparant sa propriété et celle de la dame. Il était alors accompagné par un autre policier. Les mêmes sources précisent qu'il y a un mois, l'administration locale lui avait interdit toute construction en attendant la résolution du conflit avec la femme. Toujours selon les mêmes témoins, ce sont les ouvriers de la dame qui ont appelé au téléphone cette dernière qui n'habite pas sur les lieux. Aussitôt arrivée, la femme a alerté le chef de quartier et le responsable de la rue. Les deux autorités lui ont alors assuré qu'ils s'occuperont de la situation pendant la journée. Le policier est aussitôt parti. Mais selon les mêmes témoins, il est revenu quelque temps après, cette fois-ci armé et en tenue policière. Il a commencé par jeter des cailloux, avant de tirer sur la dame 4 balles au niveau de la poitrine et à la tête. La victime est morte sur le champ. Les habitants locaux, pris de panique, demandent que les policiers ne rentrent plus chez eux avec leurs armes de service. L'administration locale confirme ces informations et appelle la population au calme. Signalons que, juste après ce meurtre, le policier a pris la fuite.
Merci Nadine. Et plus de 560 personnes ont été assassinées depuis le 28 juin 2020, dont 268 corps sans vie qui ont été retrouvés dans différentes provinces du pays. 350 arrestations irrégulières opérées alors que 55 cas de torture ont été enregistrés. Ceci figure dans le rapport sorti par la campagne SOS Torture une année après l'investiture du président Evariste Ndayishimiye. Et pourtant, le chef de l'État Ndayishimiye avait exprimé la volonté de promouvoir les droits et libertés des citoyens en condamnant la violence politique. Diane Mounouzid.
Selon le rapport de la campagne SOS Torture Burundi, le nouveau président de la République, le général-major Evariste Ndayishimiye, avait exprimé la volonté de promouvoir les droits et libertés des citoyens en condamnant la violence politique et en prenant des engagements visant à mettre fin à l'impunité. Des promesses qui avaient suscité beaucoup d'espoir au sein de l'opinion nationale et internationale. De nombreux activistes des droits de l'homme avaient pris cette déclaration comme l'expression d'une volonté ferme de changement en matière des droits de l'homme. Ces derniers ne tarderont pas à déchanter, car depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, des violations massives des droits de l'homme se sont poursuivies en toute impunité. SOS Torture Burundi indique avoir recensé 563 personnes assassinées depuis le 28 juin 2020. 268 corps sans vie non identifiés ont été retrouvés dans différentes provinces du pays, avec en tête la province de Cibitoke, où 87 corps abandonnés sans vie ont été retrouvés durant cette première année de la nouvelle législature. Ainsi, 278 personnes ont été attaquées et blessées, essentiellement par des miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir. 350 arrestations irrégulières ont été opérées alors que que 55 cas de torture ont été rapportés, dont 9 cas ont entraîné la mort en détention. Durant cette période, 63 cas de viol ont été dénoncés. Le pouvoir judiciaire burundais reste sous les ordres de l'exécutif, devenant un instrument pour pourchasser les opposants et protéger les officiels et les membres de la milice Imbonerakure. Selon SOS Torture Burundi, les opposants politiques ou supposés tels sont jugés à travers des parodies judiciaires expéditives ou qui traînent en longueur.
Merci Diane. Et puis des arrestations intempestives des membres du parti SNL font parler d'elle dans la commune de Lutegama, dans la province de Muramvya, au lendemain de l'attaque armée de ce samedi dernier. Plus de 10 personnes ont été déjà arrêtées. Les proches des personnes arrêtées indiquent qu'ils ne sont pas informés de leur lieu de détention et s'inquiètent pour leur sécurité. Ils demandent la cessation de cette chasse aux membres du parti SNL. Son reportage est signé Benny Axelakan.
Après l'attaque par des hommes armés dans la commune Lutegama de la province Muramvya dimanche dernier, une chasse à l'homme a aussitôt commencé chez les membres du parti SNL au lendemain de cette attaque.
Après cette attaque, on a observé des arrestations en cascade des membres du parti SNL. Les arrestations ont continué après des fouilles et des perquisitions sans mandat d'arrêt, sans mandat d'arrêt.
Pour certaines des personnes arrêtées, leurs familles et les proches ne sont pas informées de leur lieu de détention et s'inquiètent de leur sécurité.
On a vu des arrestations à 2h, on les a conduits dans des endroits qui ne sont pas encore connus. Après ces attaques, le gouvernement se ferme au parti SNL. On ne voit pas pourquoi. Et nous demandons au gouvernement de cesser ces arrestations arbitraires, ces arrestations en cascade. Et nous demandons qu'il prononce un mot qui apaise la situation.
Les proches des familles des personnes arrêtées demandent au gouvernement, aux instances judiciaires et de police de ne pas confondre les opposants politiques aux malfaiteurs. Ils demandent également que la suspicion d'appartenance au groupe armé pour ces derniers cesse. Les habitants de Muramvya demandent au gouvernement de sortir de son silence pour s'exprimer sur ces cas répétitifs d'insécurité. Rappelons que l'attaque de Lutegama de ce samedi passé avait coûté la vie à une dizaine de personnes. Le ministère de la Sécurité a, via son compte Twitter, indiqué que les enquêtes sont en cours.
Merci Benny Axela. Certains habitants de la zone et qui vous se lamentent suite aux exigences de donner des ponts de vin pour sortir du cachot de police. Ces habitants sont accusés par la police de collaborer avec des groupes rebelles avant d'être rançonnés pour pouvoir sortir de cachot. Des sources provenant des collines d'Ongé ou la Silla et Vumu affirment que depuis la semaine passée, deux personnes ont été déjà libérées après avoir donné des ponts de vin. Le point signé Delicia Kamikaze.
Selon nos sources, dans cette commune Mugamba, une de ces deux personnes libérées aurait payé une somme de 500 000 francs burundais et une autre a donné 200 000 francs burundais pour sortir du cachot. Des sources proches de ces familles indiquent qu'avant de rançonner ces habitants, ces derniers sont d'abord accusés de participer dans des groupes rebelles. Selon toujours nos sources, dans cette commune Mugamba, une autre personne arrêtée avec ces deux derniers aurait été infligée de donner une somme de 500 000 francs burundais pour pouvoir sortir du cachot. Les habitants de la zone Kivumu, l'endroit dans lequel les arrestations sont multiples, indiquent que c'est un montage organisé par la police de Mugamba en collaboration avec le chef de zone de Kivumu, Cyprien Nibona, pour mener des fouilles et perquisitions et arrêter des innocents. Ces habitants affirment également que les arrestations visent spécifiquement des personnes de l'ethnie Tutsi. Les mêmes habitants expliquent que les conséquences sont énormes car les familles des détenus vendent leur patrimoine familial afin de libérer les leurs. Ces habitants demandent l'intervention des autorités provinciales pour suspendre ces mauvaises pratiques. La radio Nzamba n'a pas encore eu la réaction du chef de zone Kivumu pour plus d'éclaircissements sur ce dossier.
Le parti MSD, le Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie, demande à l'Union Européenne de maintenir les sanctions sur le Burundi. Cela se trouve dans un communiqué sorti hier et dans lequel le parti montre que vu la situation sécuritaire et économique actuelle au pays, il n'est pas encore temps que ces sanctions soient levées. Le contenu de ce communiqué est signé Valérie Mouch.
Dans ce communiqué rendu public ce lundi, François Nyamoya, le secrétaire général de ce parti d'opposition, réclame un statu quo quant aux sanctions contre Gitega. Selon lui, l'Union européenne devrait continuer à serrer l'étau contre le régime burundais. La levée des sanctions serait inefficace parce que rien n'a changé depuis l'arrivée au pouvoir du président Evariste Ndayishimiye.
tant qu'il n'y a pas de libération des prisonniers politiques, sans le droit des médias et des organisations de la société civile à exercer pleinement leur travail, sans l'annulation des condamnations arbitraires de citoyens burundais, sans le retour des réfugiés, des leaders politiques, on ne peut pas parler de quelconque progrès au Burundi qui pourrait justifier la levée de la sanction de l'Union européenne.
François Nyamoya affirme également que la lourdeur des sanctions européennes est bien ressentie par le gouvernement du Burundi, ce qui explique pourquoi le régime de Ndayishimiye continue à réclamer la levée de ces sanctions.
L'attitude même du gouvernement aujourd'hui, lorsqu'il fait tout pour séduire la communauté internationale et notamment l'Union européenne, c'est la preuve même que cette sanction est tout à fait efficace. Et nous avons aussi rappelé que, historiquement, l'Union européenne et les États-Unis d'ailleurs avaient pris une mesure de sanction économique qui a obligé à l'époque le régime de Pierre Buyoya à accepter les négociations qui ont abouti à l'accord d'Arusha et les autres accords subséquents.
Vous saurez que ces sanctions économiques avaient été prises en 2016 quand le président Pierre Nkurunziza a forcé et obtenu un troisième mandat inconstitutionnel qui a plongé le pays dans une crise sociopolitique.
Inzamba. Parlons droits de l'homme à présent. Réaccréditation. Ce lundi au statut A de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNIDH, cette position lui accorde une place au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une place perdue en janvier 2018. Le Forum pour le renforcement de la société civile, le FOSC, appelle cette commission nationale à mettre à profit cette réaccréditation en évitant de couvrir des violations des droits humains commises au Burundi. On écoute Vital Nshimirimana, il est délégué général du FOSC.
Et la réaccréditation de la CNIDH au statut A ne signifie pas que cette commission est devenue performante ou qu'elle est convaincue. Et l'équipe qui est chargée d'accréditation des institutions nationales des droits de l'homme peut s'en faire. Nous pensons plutôt qu'il s'agit d'une chance qui est donnée à cette commission pour se ressaisir, pour se corriger, pour renouer avec son mandat qui est celui de la protection et de la promotion des droits de l'homme en tant qu'institution indépendante des droits de l'homme. Nous pensons que dans l'avenir, la CNIDH qui a su qu'elle n'évolue pas dans un vase clos, que la communauté internationale, le monde tient un regard vigilant à l'endroit de cette commission, elle saura mettre à profit cette position pour évoluer, pour améliorer ses prestations au bénéfice des citoyens burundais. C'est d'ailleurs cela, c'est notre appel, que cette commission puisse s'acquitter convenablement, de façon permanente, impartiale et objective de sa mission qui est celle de protéger les droits de l'homme pour tous.
Dans le secteur de l'économie, le directeur général de l'Office de transport en commun est le patron de la société qui était chargé de décentraliser le service de contrôle technique des différentes provinces ont été démis de leurs fonctions. La mesure a été prise par le président de la République Évariste Ndayishimiye lors de sa visite au siège de l'Otraco à Gitega. Le constat était catastrophique, aucune réalisation dans l'échéance convenue dans la mise en place de ce service. Les précisions signées, Jacob Siloma.
D'un temps autoritaire, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, s'adresse à Albert Maniratunga, directeur général de l'Office des transports en commun et responsable de la société Global Society Technico, qui avait signé depuis 2015 le contrat de décentralisation des services de contrôle technique dans les provinces de Gitega, Ngozi et Burundi. Pour Évariste Ndayishimiye, c'est insupportable que les transporteurs de l'intérieur doivent toujours se rendre à Bujumbura pour le contrôle technique.
Vous constatez qu'il n'y a rien ici. Ngozi et Bururi, c'est de même. Et vous imposez la population de l'intérieur à se rendre à Bujumbura. Les moyens qu'ils utilisent sont énormes. Je vous le dis sincèrement, dès aujourd'hui, tout ça doit cesser. Cela montre que la société n'a pas voulu mettre en application les termes du contrat. Désormais, entre vous deux, personne n'est autorisé à entrer dans les enceintes de l'Otrapo jusqu'à ce que les services de contrôle technique soient décentralisés vers Gitega, Ngozi et Bururi. Désormais, c'est fini pour le directeur général de l'Otrapo et la société qui a signé le contrat.
C'est un sentiment de satisfaction sain, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversation économique. Son président Gabriel Rufiji demande toutefois que d'autres contrats soient révisés pour que les biens publics soient protégés.
L'ORICOM est d'accord avec ce que le président de la République est en train de faire. Nous pensons que tous les contrats, que ce soit les contrats qui ont été signés au niveau de la régie des eaux, Onatel, les contrats miniers sont en train d'être révisés et bien d'autres contrats doivent être révisés pour que l'État ne continue pas à perdre. Mais aussi, nous demandons à ce que tous les marchés qui sont octroyés suivent les procédures. C'est à ce niveau-là que l'État du Burundi est en train de perdre.
Ces derniers temps, le coût du contrôle technique avait été revu à la hausse de 20 000 à peu près 100 000 francs burundais. Mais les usagers se plaignaient de la lenteur dans l'octroi de ce document.
Parlons héros. Les matchs de 8e des finales se terminent ce mardi par le match de l'Ukraine et la Suède à 21h. Le match le plus attendu opposera l'Allemagne à l'Angleterre à 18h. En Copa América, toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale sont connues. Et détails signés Blaise Nijimé.
À 18h, les 40 000 spectateurs qui seront présents au stade de Wembley auront l'occasion d'assister au choc entre deux grandes nations de football. Pendant les éliminatoires, les deux pays ont montré certaines failles. L'Angleterre, par exemple, n'a marqué que 2 buts et l'Allemagne en a encaissé 5. Cela montre que l'attaque des Anglais se cherche encore au moment où la défense de l'Allemagne n'est pas solide. Malgré ces failles, ces pays restent parmi les géants du football mondial. Le match contre l'Allemagne rappelle de mauvais souvenirs à l'entraîneur actuel de l'Angleterre. En effet, le 26 juin 1996, en demi-finale de l'Euro, les deux pays se sont affrontés à l'ancien stade de Wembley. Le match s'est terminé sur un score d'un but partout. Lors de la séance des tirs au but, l'entraîneur actuel de l'Angleterre a raté le 6e penalty et l'Angleterre a été éliminée. Les joueurs anglais qui, pour la plupart, n'étaient pas encore nés à cette époque, ont l'occasion ce mardi de consoler leur entraîneur. À 21h, la Suède, qui a terminé premier de son groupe, jouera contre la modeste équipe d'Ukraine qui a terminé les matchs du groupe avec 3 points. C'est l'équipe qui s'est qualifiée avec peu de points parmi les 6 équipes qui ont atteint le 8e de finale. Les Suédois sont donc favoris pour son match. En Copa América, après les matchs de ce petit matin, pendant lesquels l'Argentine a battu la Bolivie par 4 buts à 1, et l'Uruguay qui s'est imposé par la plus petite de marque contre le Paraguay, le programme des quarts de finale est connu. Il s'agit du Pérou qui jouera contre le Paraguay, le Brésil qui accueillera le Chili, l'Argentine qui sera opposée à l'Équateur et l'Uruguay qui croisera le fer avec la Colombie.
Merci Blaise, et voilà, c'est ici que nous mettons en point final à ce journal. Merci à vous tous, auditeurs et auditrices de la radio Inzamba Gatekakawe. Merci pour votre fidélité et prenez soin de vous. Au revoir.